Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h.
François Bernard.
Il est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 14 janvier, les Européens qui espèrent que la Russie va renoncer à ses plans sur l'Ukraine et prévoient sinon des sanctions lourdes contre Moscou. La Corée du Nord effectue son troisième essai de missile depuis le début de l'année et puis des températures records jusqu'à 50 degrés enregistrées dans l'ouest de l'Australie.
Le journal.
En français facile.
Les ministres de l'Union européenne des Affaires étrangères étaient réunis hier et aujourd'hui à Brest pour un sommet dominé par la situation au Mali et les tensions avec la Russie à propos de l'Ukraine. Après une semaine de discussions très tendues, chaque parti campe sur ses positions et le dialogue est au point mort. Dans ce contexte, les ministres ont affiché leur unité. Ils ont expliqué qu'ils prévoient de lourdes sanctions pour dissuader Moscou de toute action militaire en Ukraine. Les précisions de Juliette Gerbrand.
La discussion avec Moscou, oui, mais pas à n'importe quel prix, ont expliqué le haut représentant de la diplomatie européenne et le ministre français des Affaires étrangères. Pas question d'accepter l'élargissement de la sphère d'influence russe, ni un retour vers le passé. Pas question de limiter la souveraineté des États européens. Et Josep Borrell a rappelé qu'en cas de nouvelle intervention russe en Ukraine, les sanctions étaient sur la table et qu'elles seraient lourdes. Jean-Yves Le Drian s'est d'ailleurs dit frappé par la détermination et l'unité des 27, renforcée sans doute par le niveau de tension inédit qui règne ces jours-ci. L'unité est d'autant plus nécessaire que l'Union européenne en tant qu'institution peine à se faire une place à la table des négociations. Josep Borrell a beau expliquer que les Russes ont échoué à diviser les Européens et les Américains et que la coopération est permanente avec ces derniers, Moscou ne parle qu'avec Washington ou certaines capitales européennes. La ministre allemande des Affaires étrangères se rendra d'ailleurs au Kremlin la semaine prochaine, ainsi qu'en Ukraine, où elle retournera ensuite avec le ministre français.
Ce vendredi, la Corée du Nord a effectué son troisième essai de missile depuis le début de l'année. Alors que les deux précédents étaient des missiles hypersoniques, selon les médias d'État nord-coréens, il s'agirait de deux missiles balistiques de courte portée. La multiplication de ces essais inhabituels en cette période de l'année intervient seulement quelques heures après que Pyongyang a dénoncé la décision américaine d'imposer de nouvelles sanctions au pays. Les précisions de notre correspondant sur la péninsule coréenne, Nicolas Roca.
La promesse d'une réaction plus forte de la Corée du Nord aux sanctions américaines instaurées ce mercredi ne s'est pas fait attendre. Ce troisième essai nord-coréen en moins de 10 jours a eu lieu quelques heures seulement après les déclarations du porte-parole des Affaires étrangères qualifiant d'attitude de confrontation la décision américaine d'établir des sanctions à l'encontre de 5 personnes liées au programme balistique nord-coréen. Après le test d'un missile qualifié d'hypersonique par les médias d'État en présence de Kim Jong-un ce mardi, ce nouvel essai envoie un message clair. Le pays ne renoncera pas à son programme balistique, quelles que soient les sanctions. Les invitations répétées au dialogue sans condition des États-Unis ou bien d'une déclaration commune de fin de guerre de Corée de la part du Sud apparaissent insuffisantes pour le dirigeant nord-coréen qui semble plutôt espérer une contrepartie à d'éventuelles discussions. Du côté de Séoul, les tests du voisin risquent de s'inviter dans les débats de l'élection présidentielle de mars prochain. Le successeur du président Moon Jae-in, grand partisan du dialogue, aura fort à faire s'il souhaite que Pyongyang et Washington s'assoient à une table des négociations à laquelle aucun des deux partis ne semble réellement prêt à s'attabler. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
Le gouvernement israélien tente d'apaiser les tensions dans le Negev. C'est dans ce désert que vit une minorité bédouine arabe de nationalité israélienne. Certains membres de cette communauté sont installés dans des villages non reconnus par les autorités israéliennes. Cette semaine, le FNJ, le Front National juif, un organisme relevant de l'organisation sioniste mondiale, a entrepris de boiser des terrains dont la propriété est revendiquée par les Bédouins. Alors les Bédouins dénoncent une tentative d'expropriation. La situation sur place a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Reportage dans le Negev de notre envoyé spécial permanent, Sami Boukhalifa.
À la Trache, village bédouin sans eau courante ni réseau électrique. Pour l'atteindre, pas de route, il faut emprunter une piste cabossée. Quelques maisons éparses, un immense terrain vague, sablonneux, objet du litige. Il est gardé par des policiers. Comme tous les bédouins ici, Dria à la Trache porte le même nom que son village. Preuve selon lui que la terre appartient à sa tribu.
Les juifs ne veulent pas planter des arbres ici pour l'écologie, mais pour prendre possession de la terre. Ils délimitent des parcelles et l'État les soutient contre les bédouins. Et pourtant, notre présence ici date de bien avant la création d'Israël.
Sur leur téléphone, Deya et ses frères conservent précieusement les vidéos des affrontements avec la police. Selon Aouda, l'aîné de la famille, l'objectif des autorités israéliennes est de déplacer les populations bédouines vers les villes.
Ils veulent nous enfermer dans des boîtes de sardines. Nous sommes des bédouins, notre mode de vie est différent. Nous sommes proches de la nature, nous sommes des éleveurs, nous avons des troupeaux, nous ne pouvons pas vivre en ville, nous avons toujours vécu comme ça.
En tout, 250 000 bédouins vivent dans le Negev. Cette communauté compte sur le soutien de Ram, parti politique arabe membre de la coalition gouvernementale. Plusieurs ministres appellent désormais à l'apaisement. Sami Boukhalifa à la Trache dans le Negev, RFI.
Le Covid. Dans le monde du sport, plusieurs nouveaux cas affectent l'effectif de Manchester City, équipe de football. C'est ce qu'annonce l'entraîneur de l'équipe, l'Espagnol Pep Guardiola. Et puis l'Australie a relancé de façon spectaculaire la saga Djokovic en annulant à nouveau le visa du numéro 1 mondial de tennis. Décision prise à 3 jours du premier tournoi du Grand Chelem de l'année à Melbourne. Canberra a même menacé le tennisman d'un retour dès demain en rétention, où il a déjà passé plusieurs jours. Il y a été conduit après être entré en Australie sans respecter l'obligation d'être vacciné contre le Covid. En Australie, toujours, est-ce un signe du réchauffement climatique ? Des températures records ont été enregistrées sur la côte ouest du pays. Les précisions à ce propos d'Aram Beng.
Le thermomètre est monté jusqu'à 50,7 degrés dans l'ouest de l'Australie, alors que les températures y varient entre 30 et 40 degrés à cette période de l'année. Un niveau de chaleur jamais enregistré dans le pays depuis plus de 60 ans. Selon le bureau de météorologie, cette température record que les habitants de la ville côtière de Onslow ont vécu pourrait devenir fréquente à cause du réchauffement climatique. Une prévision inquiétante pour le pays car, d'après le Conseil australien pour le climat, les vagues de chaleur tue déjà silencieusement. En 2021, l'Australie a connu un été extrêmement chaud qui a causé d'importants feux de forêt dans l'ouest du pays et des inondations meurtrières sur sa côte est. Les services météorologiques préviennent que, sans une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ces fortes chaleurs pourraient se produire à un rythme plus fréquent. Les villes de Sydney et Melbourne, épargnées jusqu'à présent, pourraient elles aussi connaître des températures estivales à 50 degrés d'ici 2030.
Aram Beng, sachez enfin que si vous êtes apprenant, enseignant ou simplement curieux de la langue française, votre expérience nous intéresse. RFI Savoir, la plateforme dédiée à RFI à l'apprentissage du français, lance une enquête auprès de ses utilisateurs. Si vous souhaitez y répondre, rendez-vous sur RFI My Experience. Alors, je vous le décris précisément. RFI.my/experience. D'accord? Toutes les données seront traitées de manière confidentielle et merci pour le temps que vous y consacrerez. Et puis, j'ai une autre annonce à faire. C'est la dernière fois que je vous présente le journal en français facile. La semaine prochaine, je quitte donc RFI pour de nouvelles aventures. Un peu triste, bien sûr, mais la tête pleine de bons souvenirs avec vous, auditeurs de ce journal en français facile, mais aussi de mes co-présentateurs, Zéphirin Quadio, Sylvie Berruet et Ravière, qui a participé à cette émission depuis des années. Merci à tous et bonsoir.
La marche du monde.